qu'en large.
Blanc, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Bonjour Mathias Reynard.
Bonjour.
Vous êtes conseiller d'État de première législature. On va parler de politique un peu, évidemment, mais pas que dans cette émission. Je demande à mes invités de choisir un lieu. Vous avez choisi Montet et la maison des écrivaines, écrivains et des littératures. Pourquoi ?
Oh, parce que c'est un lieu magnifique, important, soutenu par le canton, qui est assez unique en son genre, donc un lieu de soutien à la littérature, aux écrivaines et écrivains, au développement de la littérature. C'est souvent un type d'art qui est un peu oublié des politiques publiques. Et donc, voilà, ça me semble important, en plus de ne pas avoir toujours tout à Sion, toujours tout centralisé, d'avoir ce genre de projet qui se développe aussi dans le Chablais, c'est précieux. Et voilà, c'est pour nous, c'est vraiment un beau projet qu'on est fiers d'avoir soutenu à son lancement.
Une décentralisation heureuse.
Absolument, une décentralisation heureuse. Je pense que c'est aussi le rôle de la culture et du service de la culture de soutenir des projets sur l'ensemble du territoire cantonal pour avoir une présence dans toutes les régions et puis permettre un développement aussi culturel qui soit bien équilibré. Il y a déjà un peu la tentation de toute façon d'avoir beaucoup de choses qui se font dans la capitale.
Oui, comme dans partout, hein, le centralisme n'est de nulle part, donc il est de partout. On va évidemment venir à tous les pans de votre département, c'est la santé, les affaires sociales, la culture, mais puisqu'on est à la maison des écrivaines et écrivains, il y a un rapport à la littérature avec vous. Hein, je suis allé regarder votre page Facebook, vous ne publiez plus sur Facebook, hein, vous êtes passé sur Instagram, clairement, pour les choses récentes. Mais il y a une époque, je m'en souviens, vous faisiez un peu des listes, hein, vous rappeliez, vous donniez peut-être pas des conseils de lecture, mais en tout cas vous donniez un reflet de ce que vous aviez lu et de ce qui vous avait plu.
Oui, bon, alors les différents réseaux sociaux, on essaie de les garder vivants tous. Je publie plus rien sur mon profil Facebook, c'est vrai, mais par contre on a une page Facebook qui est très active avec on essaie aussi de mettre en avant les projets du département, les visites qu'on effectue. Et puis oui, j'aime bien partager de la littérature. Je le faisais aussi sur d'autres réseaux comme Twitter à l'époque où c'était réseau qui marchait encore bien. Donc oui, j'aime partager la littérature, partager les découvertes de poésie. C'est quelque chose qui est peut-être aussi lié à mon ancienne profession d'enseignant, où j'aime le partage des découvertes littéraires.
Tu as encore le temps de lire d'autres trucs que des rapports ?
Oh oui, heureusement. Non, je me prends du temps. Je prends des moments comme ça de respiration, que ce soit pour courir, je fais beaucoup de courses à pied, ou que ce soit pour lire. Donc oui, je suis tout le temps en train de lire quelque chose.
Il y a quelque chose de l'ordre du partage, mais de l'ordre de l'intime aussi dans la lecture. Hein. C'est évidemment des moments de solitude. Ça régénère ?
Ça régénère. C'est à la fois c'est à la fois une activité solitaire, puis en même temps une activité qui nous connecte tellement avec les autres. Parce que quand on lit le livre que je viens de terminer, c'est le livre d'Édouard Louis, le dernier, Monique s'évade, qui raconte l'histoire de sa mère. Et voilà, quand on lit, je connais très bien Édouard, je vois aussi son parcours et ça connecte directement. Mais je pense que même quand on lit des œuvres de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est la capacité à faire vibrer, à faire ressentir des émotions. Ça parle à ce qu'il y a de commun chez chaque être humain.
C'est un peu douloureux la lecture. On a une maison des écrivaines, des écrivains. Est-ce qu'on a encore des gens qui lisent ?
Oui, on a beaucoup de gens qui lisent et on a mille fois dit que la littérature s'était terminée, que les supports numériques allaient tout changer, et en fait pas du tout. Non seulement effectivement des gens lisent sur d'autres supports, même si c'est moins élevé que ce qu'on aurait imaginé, c'est redescendu un retour au livre papier, mais en plus de ça, on dit souvent qu'on n'a jamais autant lu qu'aujourd'hui, ou voilà, toutes les façons de communiquer sont énormément aussi via ce genre de support.
Ouais, je vais pas vais pas faire toute l'interview en mode décliniste, hein, mais vous avez relevé la poésie. Ça, c'est quand même un signe d'époque. Hein. Si on tourne, enfin, on a beaucoup tendance à revenir un siècle en arrière, hein, parce que la période, les années 30, on fait facilement des comparaisons. Quelle importance avaient les poètes à l'époque, hein, un rôle politique, un rôle d'émancipation populaire. Ça, quand même, c'est un peu passé. Hein. La popularité, l'aspect populaire de la poésie.
Je ne serais pas aussi clair. Je pense aussi qu'il y a des formes de poésie nouvelles qui apparaissent, notamment via la chanson. On a souvent un regard un peu dédaigneux sur, par exemple, la culture hip-hop, le rap, alors qu'il y a de très grands artistes de ce milieu-là qui ont des textes qui sont qui n'ont rien à envier à Aragon. Donc oui, il y a aussi dans d'autres formes de poésie. La poésie, c'est pas que les alexandrins. Il y a aussi de la poésie dans de la prose. Il y a aussi de la poésie dans la chanson. Donc elle peut être présente en fait un peu partout.
C'est une respiration d'avoir la culture dans son département. Les affaires sociales, la santé, c'est pas des services faciles, hein, on en parlera, mais la culture.
Alors, oui, bien sûr, ça fait du bien d'avoir, surtout quand on aime ça. Je fais depuis le début du mandat 2, 3, des fois 4 événements culturels par semaine. J'essaie d'être très présent auprès des artistes, très présent dans les théâtres pour voir les nouveaux acteurs culturels, comédiennes, comédiens. Bien sûr que c'est quelque chose que j'apprécie et qui fait sens pour moi. Mais limiter la culture à du divertissement, ce serait faux. En fait, quand on est ministre de la culture, c'est pas juste de la respiration ou du
c'est
plaisir.
C'est aussi de l'économie, c'est aussi du social. L'économie.
Exactement. Ouais. C'est aussi des politiques culturelles qu'on peut mener, qui non seulement peuvent changer la vie des gens, mais peuvent aussi permettre aux artistes de mieux vivre, permettre de faire rentrer la culture dans des lieux qui n'en ont pas. Les politiques culturelles peuvent aussi permettre de favoriser l'accès à la culture. Ça, pour moi, c'était un peu le centre de cette législature, c'est des programmes qui permettent d'améliorer l'accès à la culture. On avait déjà l'AG culturel, on a lancé la Bobo, on a lancé la carte Caritas qui donne accès à la culture pour les personnes les plus précarisées. Voilà, c'est du concret ça.
Alors ça justement, moi c'est quelque chose dont je parle depuis longtemps, hein, sur cette antenne avec un certain émerveillement. Il y a eu un effet Covid extrêmement positif, hein, cette mise ensemble, en tout cas des politiques du spectacle. Hein, toutes les salles, on se voit plus comme des concurrents, on se voit comme des partenaires, on se rend compte que l'union fait la force, ça doit vous ravir, ça, évidemment.
Bien sûr, on s'est aussi montré innovant en Valais, en termes de projets de transformation, ces fameux projets qu'on a pu soutenir à part égale avec la Confédération après le Covid, projets culturels dont la MEL fait partie, dont la Bobo fait partie. Ben voilà, ça, c'est des projets qui sont juste magnifiques et qui, on l'espère, vont perdurer. Il y a eu une dynamique comme ça. Aussi parce qu'on s'est toutes et tous rendu compte à quel point on avait besoin de culture. On s'en est rendu compte quand on l'avait plus. C'est comme voilà, l'amour dont on se rend compte de sa valeur au moment où il ferme la porte, où il repart. Donc oui, il y a eu une effervescence vraiment magnifique. Et puis il faut dire, il y a eu aussi du côté du Conseil d'État la volonté de venir avec des projets innovants. Rappelez-vous les actions qu'on avait menées sur des entrées gratuites dans les cinémas, sur le soutien à la littérature valaisanne avec les petites librairies indépendantes du canton. Donc on a essayé de mener toute une série de projets pour n'oublier personne, pour avoir un retour de toutes et tous dans la culture.
C'est fini les discours politiques, je ne dis pas que c'était les vôtres et ceux de votre camp, hein, mais enfin on a entendu des discours politiques, la culture ça coûte cher, c'est fait pour une élite. Moi il y a un truc qui m'a frappé, j'en parle très souvent parce que vraiment ça m'a frappé, pas seulement en Valais, un peu partout en Suisse, c'est à quel point on a pas considéré pendant le Covid la culture comme un élément qui coûte mais qui n'est pas indispensable. On s'est rendu compte que c'était une économie, et puis on s'est aussi rendu compte que le lien social, le faire ensemble, hein, le vivre ensemble était important, et j'ai trouvé ça assez révélateur finalement d'un cap de société.
Alors on est vraiment sur le bon chemin, on va dans la bonne direction, mais il reste beaucoup à faire. Quand on a des périodes budgétaires compliquées, j'ai une pression énorme qui me revient pour couper dans la culture, et j'ai toujours essayer jusqu'à présent de réussir à protéger la culture dans ces moments-là, à développer le secteur culturel. Et puis c'est vrai qu'on a pour voir l'aspect positif, on a vraiment des changements dans les mentalités, et c'est aussi lié à des projets qu'on développe. Par exemple, on développe ce projet de Valais Valis Commission, donc c'est une commission, la Valley Film Commission, qui s'occupe de développer le tournage de films en Valais. En gros, on soutient des équipes qui viennent tourner dans notre canton.
Répercussions avec... économiques, modèle scandinave.
Et avec une répercussion économique énorme. Et on se rend compte dans ces moments-là que quand on investit un franc dans la culture, bah, il y en a plusieurs, 6, 10, 12, en fonction des études et du secteur culturel qui est visé. Mais c'est clair qu'on a vraiment une répercussion. Et donc, c'est de comprendre que la culture, c'est un secteur créateur de richesse, qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse, qui crée de l'innovation. Et ça, c'est un vrai changement dans les politiques publiques, c'est un vrai changement dans les mentalités. Alors voilà, il y a encore du travail, parce que bien souvent, on voit aussi via le statut très précaire de bien des artistes, ça demande encore des renforcements, notamment qui passent par le niveau fédéral.
Vertueux, hein. Je vous parlais de la Valley Film Commission, ils ont leur lien de serviette à Cannes maintenant, hein, ils y vont. Bon, on peut penser à Kevin Germanier, à Nuit Incolore. On a une culture qui rayonne, on l'a toujours eu d'une certaine façon, mais dans les cultures populaires, on a quelque chose qui rayonne. Ça, c'est les premiers de cordée, comme disait votre, c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est les premiers de cordée, c'est des très très beaux modèles qui, en général, pour les trois exemples que vous venez de citer, gardent en plus une humilité dans un monde qui en manque souvent. Donc, oui, c'est des très beaux modèles, des très beaux exemples. Voilà, je pense que c'est aussi une définition de la culture où on oppose trop souvent la culture populaire à une culture plus élitiste. Puis on a tellement de modèles géniaux qui montrent que c'est l'inverse, et que la culture, en fait, chacun va avoir une façon de vivre de la culture, une place pour la culture dans sa vie. Et le modèle, par exemple, du Pulp Festival, c'est excellent, parce que c'est tout un modèle qui travaille sur la culture patrimoniale, nos traditions très ancrées dans le territoire, et puis en même temps des artistes, des musiques actuelles, de la création contemporaine. Et je pense que ce sont vraiment des signaux qui montrent que la culture, bah, en fait, elle appartient à toutes et tous, et on a tous un lien avec elle.
Bon, on a parlé beaucoup de culture, on arrive déjà à la fin de la première partie de cet entretien. C'est sans doute cette maison des écrivaines et des écrivains qui nous a emballés. On va se retrouver dans un instant.